Vous êtes sur RTL.
Désignera une femme incompétente. Malheureusement, nous n'en sommes toujours pas là. Et ce n'est pas parce que nous sommes le 8 mars qu'il y a des femmes invitées ce soir dans RTL Soir. C'est parce qu'il y en a tous les jours et toute l'année, depuis deux ans, 50% des places au micro vous sont réservées, mesdames. Non pas comme un privilège, mais parce que c'est tout simplement votre... Graver un cœur d'argile. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Découvrons avec vous les grands titres dans l'actualité de ce lundi 8 mars donc.
Et à la une ce soir, le Covid et cette situation qui se dégrade en Ile-de-France. Les hôpitaux et cliniques ont reçu l'ordre de déprogrammer 40% de leurs interventions pour faire face à l'afflux de malades. Dans ce journal également, la couronne britannique accusée de racisme. Et puis c'est la femme du jour, Perrine Laffont, à 22 ans. La championne olympique décroche le tout dernier titre qui manquait à son palmarès, celui de championne du monde de ski de boss en simple.
Elle a tout gagné. Bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir Thomas. Bonsoir.
La météo pour demain. Il y aura du soleil, mais pas pour tout le monde.
Mais c'est vrai qu'il sera quand même là un peu plus généreux qu'aujourd'hui, notamment dans les régions du sud où on avait encore quelques nuages. Bah demain, dans la moitié sud, on retrouve également du grand soleil. Il restera quelques nuages sur les Pyrénées, entre les Alpes et la Corse, avec peut-être une averse, mais ça restera très limité. Et puis dans la moitié nord, là aussi, beaucoup de soleil, mais fini le ciel tout bleu. Il y aura quelques petits nuages quand même au milieu de cette belle lumière. Et puis peut-être un flocon, en tout cas une petite averse du côté des Ardennes, c'est tout. Et avec ce temps encore sec et souvent très ensoleillé, bien gros contraste entre le matin où on aura encore de fortes gelées dans la moitié nord et l'après-midi où ça remontera un petit peu, 9 à 11 degrés dans la plupart des régions, jusqu'à 16 degrés même parfois près de la Méditerranée.
Merci Louis.
RTL Soir.
C'est donc l'info de cette fin de journée sur le front du Covid, l'inquiétude qui grandit en Ile-de-France. L'ARS, l'Agence régionale de santé, demande désormais aux hôpitaux et aux cliniques d'annuler 40% des opérations non-urgence, presque une sur deux. Objectif, libérer des lits de réanimation alors que la plupart des établissements affichent complet. Antoine Vieillard-Baron est chef de service à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt.
On est à peu près aujourd'hui à plus de 900 malades Covid en soins critiques en Ile-de-France. Ça correspond grosso modo au niveau de patients qu'on avait à l'automne dernier, 6 jours avant le pic. On était déjà confinés. Et donc là, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette situation puisqu'on n'est pas confiné et qu'on a encore une augmentation des infections. Et puis là, manifestement, on a eu un mauvais week-end. Donc on est particulièrement inquiet.
Bonsoir Agathe Landais.
Bonsoir.
Des médecins inquiets, on en entend souvent. Est-ce que cette fois, il y a vraiment des raisons de tirer la sonnette d'alarme en Ile-de-France ?
Alors c'est vrai que la pression est aujourd'hui très forte sur les hôpitaux. Ce soir, les services de réanimation en Ile-de-France sont occupés à 86%. C'est 14 points de plus que lundi dernier. Preuve que la cadence des entrées en soins intensifs est en train de s'accélérer. À ce rythme, l'Agence régionale de santé estime que les lits seront tous pleins dans la semaine. C'est donc pour cela qu'elle a enclenché de nouvelles déprogrammations. Aujourd'hui, on était à environ 20% des opérations chirurgicales non urgentes qui étaient repoussées. On va donc passer à 40%. Cela va diminuer la pression en dégageant à peu près 400 lits supplémentaires et cela va libérer du personnel qui pourra être redéployé en réanimation. Déprogrammer va donc donner un peu d'air, mais pas sûr que ce sera suffisant, notamment à cause du variant anglais. Il circule énormément en Ile-de-France. Cela fait à peu près 68% des cas positifs détectés la semaine dernière. Et cette part a de nouveau fortement augmenté. Selon nos informations, cette souche plus contagieuse est détectée aujourd'hui chez près de 80% des malades Covid en Ile-de-France.
Agathe Landais du service santé de RTL, j'ajoute que l'Italie annonce ce soir avoir passé la barre symbolique des 100 000 décès, 100 000 morts du Covid. Il y a un an, jour pour jour, le pays débutait son tout premier confinement.
18h04 dans l'actualité également ce soir, cet aveu glaçant dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty.
Près de 5 mois après le drame, la collégienne à l'origine de la cabale lancée contre ce professeur a reconnu avoir menti. Vincent Serrano, vous êtes rendu sur place à Conflans-Sainte-Honorine, là-bas. Rares sont ceux, finalement, à être vraiment surpris.
À commencer par les élèves de ce collège qui parlent de ce mensonge entre eux depuis plusieurs mois. Loïc, par exemple, qui se dit soulagé aujourd'hui par les aveux de la jeune fille.
Toute sa classe le disait que, elle n'était pas là en cours. En vrai, c'est bien qu'elle laisse mieux parce qu'elle devait porter ça, on va dire, sur elle. Déjà, ça devait être compliqué. Et comme on savait, ouais, bah, ça étonnait pas forcément. Donc, je sais même pas en fait pourquoi, dès le début, ils l'ont pas su. Qu'elle, elle était pas dans la classe à ce moment-là. Du coup, la vidéo, ouais, c'était pas vrai du tout, en fait, ce qu'ils disaient.
Ce qu'ils souhaitent maintenant, c'est passer à autre chose, tout comme Cécile, une parent d'élèves pour qui le temps de la reconstruction est venu.
Les élèves de 3e préparent leur brevet tant bien que mal, il n'y a pas de sortie scolaire, etc., etc. Pour eux, ce n'est pas le sujet numéro 1. Pour autant, je pense que c'est très important que cette information soit connue de tous.
J'espère que ça va permettre la reconstruction de tous ces enseignants qui se sont sentis atterrés par quelque part une trahison d'une élève qui vous voit tous les jours.
Et depuis hier soir, cette maman s'est remise à discuter avec sa fille, notamment sur le danger des réseaux sociaux et sur la vérité, dit-elle, toujours préférable au mensonge.
À Conflans-Sainte-Honorine, le reportage de Vincent Serrano pour RTL. Dans le même temps, les enquêteurs annoncent avoir identifié l'un des djihadistes avec qui le tueur était en contact. Bonsoir Alice Moreno.
Bonsoir.
De qui s'agit-il et surtout quels étaient leurs liens ?
Eh bien, il s'agit de Farouk Chami, un jeune djihadiste de l'organisation Hayat Tahrir al-Sham, toujours très active à Idlib en Syrie. Information de nos confrères du Parisien qui nous ont été confirmées. Juste après l'assassinat de Samuel Paty, le tueur Abdullah Kanzorov s'est empressé d'envoyer un message audio à cet homme. J'ai décapité le prof, là je vais faire le djihad en France. Farouk Chami lui répond alors que la bénédiction d'Allah soit avec toi. Chami se présente comme un journaliste sur les réseaux sociaux. En réalité, il fait de la propagande pour son groupe terroriste, cherche sans cesse à recruter de nouveaux combattants. Ses échanges avec Kanzorov ont débuté bien avant l'attaque de Conflans. On ignore s'il était son conseiller, son inspirateur. En tout cas, un mois avant l'assassinat de Paty, il appelait à la vengeance suite à la République des caricatures de Mahomet. Dans une vidéo, il demandait clairement au président tchétchène d'envoyer des frères en France.
Alice Moreno du service police-justice d'RTL.
C'est aujourd'hui donc la journée internationale des droits des femmes et Emmanuel Macron s'est rendu tout à l'heure dans une pépinière d'entreprises à la rencontre d'associations et de dirigeantes qui œuvrent pour plus d'égalité dans le monde du travail.
À ses côtés, il y avait Elisabeth Moreno, la ministre en charge de l'égalité hommes-femmes, qui ici même, sur RTL, hier, regrettait que le cabinet du chef de l'État ne compte qu'une seule femme. Le président lui a répondu, écoutez.
Oui, on va continuer d'ailleurs.
Est-ce que vous pensez que c'est paritaire ?
Ah non, c'est pas encore paritaire. Et donc je pense qu'il faut continuer à faire des efforts et que c'est un mouvement, qu'il s'agisse des entreprises, qu'il s'agisse de la fonction publique. Moi je me félicite d'avoir réussi des choses et de ne pas avoir fini sur le reste. Et donc typiquement, je pense qu'il n'y a aucun mouvement politique qui a mis autant de femmes députées. Par l'appel que j'ai fait, le groupe parlementaire est quasiment, le groupe majoritaire, il est quasiment paritaire. Les nominations qu'on fait dans les postes de préfet, d'ambassadeur, mais largement à nos chiffres. Mais on doit encore féminiser les cabinets, le vivier des hauts potentiels dans l'administration. Exactement comme on le demande aux entreprises. Et je pense que d'ailleurs, si on le demande aux entreprises, il faut le faire pour nous-mêmes. Donc il y a encore du boulot.
Emmanuel Macron au micro RTL de Vincent Derosier. Il y a encore du boulot. La formule vaut aussi pour la lutte contre le réchauffement climatique. Les députés ont débuté aujourd'hui l'examen en commission du projet de loi climat. Marie-Bénédicte Allaire, c'est un texte très attendu et qui divise la majorité.
Oui, effectivement, car il y a ceux pour qui la crise sanitaire est l'occasion d'accélérer la transition environnementale et ceux pour qui ce n'est vraiment pas le moment. Alors Barbara Pompili, la ministre de l'Environnement, débute les discussions par cet avertissement.
J'ai bien la louable intention de ne pas soutenir ce qui viendrait réduire l'ambition de ce texte. Et vous pouvez compter sur moi pour maintenir ce cap ambitieux et être à vos côtés pour enrichir ce texte majeur.
Mais alors que les associations et la gauche dénoncent un texte trop faible, la députée En Marche, Marie Lebec, dénonce les tenants d'une écologie de la décroissance.
Nous sommes très nombreux à n'avoir jamais pensé voter un jour la suppression des lignes aériennes dans notre pays, la fin de l'extension des aéroports ou l'arrêt de l'artificialisation des sols pour certaines activités.
Ce qui ne réussira pas à convaincre l'écologiste Delphine Bateau, par exemple, elle s'insurge contre le fait que de nombreux amendements ont été déclarés irrecevables.
Très concrètement, les parlementaires vont être privés de débat sur toute une série de sujets très importants.
Et les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont déjà appelé à manifester quand le texte arrivera dans l'hémicycle.
Merci à vous Marie-Bénédicte Allaire. On y reviendra dans moins de 10 minutes maintenant avec Olivia Grégoire, secrétaire d'État à l'économie solidaire. Dans un instant, après la pause, on part en Grande-Bretagne. Voilà que la couronne est accusée de racisme.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h et pratiquement 11 minutes suite du journal avec vous, Amandine Bégaud. Et on va donc au Royaume-Uni et il y aura sans doute beaucoup, beaucoup de monde devant la télé ce soir.
Oui, avec la diffusion de l'interview choc d'Harry et Meghan. Marie Billon, bonsoir. Vous êtes sur place pour RTL. Ce qui intéresse les sujets de Sa Majesté, ce sont surtout ces accusations de racisme.
Oui, des accusations très fortes portées par Meghan, surtout et qui ne concernent pas qu'elle, mais aussi le fils du couple, Archie.
In those months when I was pregnant,
Pendant que j'étais enceinte, on a entendu en même temps qu'il n'aurait pas d'agent de sécurité pour le protéger, qu'on ne lui donnerait pas de titre. Et aussi des inquiétudes, des conversations sur cette question. À quel point sa peau sera noire quand il naîtra?
Alors les spéculations allaient bon train. Aujourd'hui, personne ne voyait la reine faire ce genre de remarques. Mais son époux, le prince Philippe, est maître de la gaffe limite, voire franchement raciste. Mais aujourd'hui, dans la matinale de la chaîne américaine qui a diffusé l'interview CBS, Oprah Winfrey, qui a réalisé l'entretien, a apporté cette précision.
Il ne m'a pas dit de qui il s'agissait, mais il voulait bien que je sache que ni sa grand-mère ni son grand-père n'avaient tenu ce genre de propos.
Mais ce qu'une partie des Britanniques retient quand même, c'est que quelqu'un au cœur de la famille royale a pu faire ce genre de remarques a priori impunément, et ça, ça éclabousse la couronne.
Marie Billon à Londres pour RTL, interrogée sur le sujet lors d'une conférence de presse tout à l'heure. Boris Johnson a refusé de commenter ces accusations de racisme. Le Premier ministre britannique réaffirme en revanche son admiration pour la reine.
Il y a deux bonnes nouvelles pour le prix d'une journée. D'abord, vous êtes revenu de vacances, ça nous réjouit. Oui, et puis il y a la deuxième bonne nouvelle.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et on vous le disait, c'est la femme du jour, Perrine Laffont. À 22 ans seulement, la skieuse française, qui est déjà championne olympique, décroche le seul titre qui manquait à son palmarès, celui de championne du monde de ski de bosse en simple.
Bah, c'était la médaille qui me manquait. Enfin, je la voulais tellement, celle-là. Et finalement, bah voilà, de réussir à le faire, c'était le soulagement, c'était l'accomplissement, c'était plein de choses.
Vous avez seulement 22 ans et un tel palmarès. Est-ce que vous réalisez que vous êtes en train de devenir l'une des plus grandes championnes françaises?
Non, pas trop. Après, tout à l'heure, je me suis dit, ok, t'es championne du monde et à 22 ans, t'as tout gagné dans ton sport. Et c'est là que je me dis, ah oui, quand même. Mais ouais, je sais pas, je pense que je suis encore loin des grands noms du ski français, mais en tout cas... Je m'en rapproche petit à petit.
Mais on a encore de l'appétit à aller chercher d'autres médailles quand on a tout gagné?
Ah bah oui. Hein. Bah en tout cas, c'est marrant parce que j'ai fait la blague à tout le monde. Tout à l'heure, j'ai dit c'est bon, j'ai gagné le single, je peux arrêter. Mais au final, non, parce que franchement, c'est tellement d'émotions et qu'on a envie d'en revivre encore et encore.
Voilà le sourire, le plaisir de Perrine Laffont au micro RTL d'Isabelle Langer. Elle aura l'occasion de briller une nouvelle fois demain avec l'épreuve du parallèle, épreuve dont elle a déjà le titre de championne du monde.
Vous êtes pas mal, vous, en parallèle ski de bosse,
ah
hein,
ouais,
je crois.
Super. Ouais,
on n'a pas les images, mais dès qu'on les a, on les mettra sur les réseaux. Merci, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
C'est une voix qui monte dans la majorité et aussi un franc-parler qui détonne. La secrétaire d'État Olivia Grégoire est l'invitée d'RTL Soir, c'est tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
Elle est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie en charge de l'économie sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire, et l'invitée d'actualité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Olivia Grégoire.
Merci, Thomas Soto.
Alors, un président de la République, un Premier ministre, un président de l'Assemblée, un président de groupe à l'Assemblée, un ministre de l'Intérieur, un ministre de l'Économie, un ministre de la Santé, un ministre des Affaires étrangères. On continue ? Un ministre de l'Éducation, un ministre de l'Agriculture, 12 hommes et une seule femme parmi les collaborateurs directs d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Olivia Grégoire, c'est pas trop difficile d'être une femme en Macronie ?
Une ministre du Travail, une ministre de l'Industrie, une ministre de la Fonction publique, une ministre aussi à Beauvau. Bref, nous avons une présidente de la Commission des lois, une présidente de la Commission développement durable.
On est donc d'accord, les postes régaliens sont pour les hommes.
Non, la présidente de la Commission des lois, ça n'est pas anodin au Parlement. Ce serait dommage, surtout vu le travail que fait Yaël Braun-Pivet. Moi, vous savez, j'entends la compilation, j'ai envie de vous dire... Qui a rallongé le congé paternité pour que les femmes puissent travailler plus facilement? Qui a fait en sorte que les femmes seules aient leur pension alimentaire garantie par l'État quand leurs ex-maris n'assurent pas? Qui a mis en place l'index pénico pour faire en sorte que ça bouge vraiment dans les entreprises? Qui a fait en sorte que dans les conseils de direction, il y ait une parité dans les processus de recrutement? C'est ce gouvernement. Alors il y a encore du boulot, et ça fait partie des sujets où il y aura toujours du boulot, accompagner, amplifier l'égalité femmes-hommes, renforcer le droit des femmes. Le bilan de ce gouvernement ne laisse pas rougir, en tout cas je n'en rougis pas, et ça n'est pas seulement les façades qu'il faut regarder, c'est aussi vraiment ce qu'on fait pour les femmes depuis 4 ans.
Est-ce que vous avez à souffrir du fait d'être une femme dans votre quotidien de vie politique?
Non.
Ok, ça c'est la réponse officielle. En vrai, est-ce que vous avez à souffrir d'être
non,
une femme?
Non, parce que je réfléchissais à votre question en y répondant, ce qui est mieux. pas d'être une femme. C'est plus difficile de rester une femme, de rester douce, de rester présente dans sa maison, auprès de son mari, de ses enfants, de garder sa prise sur le réel, de continuer à faire ses marchés, de continuer à avoir sa vie de femme. Et c'est parfois difficile de rester femme. En revanche, moi qui ai commencé la politique il y a longtemps, même si je l'ai arrêté aussi entre-temps, il faut comparer ce qui est comparable. Entre il y a 20 ans et aujourd'hui, les choses ont considérablement changé. Il y a encore des choses à améliorer. Il y a être femme, il y a rester femme, et je m'intéresse beaucoup au rester femme en politique, rester femme quand on a du pouvoir aussi en entreprise, c'est un sacré challenge.
Mais ce sont encore des femmes qui se font traiter de poissonnières parfois à l'Assemblée, aujourd'hui.
Parfois à l'Assemblée, aujourd'hui, oui, et ce sont aussi des gens comme le président Richard Ferrand qui condamnent et qui prennent des mesures, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans, il y a même 10 ans, donc je vois aussi le chemin parcouru, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas encore beaucoup à parcourir, mais les lignes ont bougé.
Olivia Grégoire, l'examen du projet de loi Climat et Résilience et ses 5000 amendements a débuté aujourd'hui dans le cadre des travaux de la commission spéciale et vous allez y représenter le ministère de l'économie pour la partie produire et travailler, on va y revenir. Mais d'abord, Emmanuel Macron, on a l'impression que c'est un peu 50 nuances de vert, il semble plus ou moins écolo selon les moments, un peu écolo opportuniste, ça sème le trouble au sein même de votre majorité. Pourquoi aujourd'hui on devrait croire en sa sincérité? Pourquoi on devrait croire qu'il ne fait pas du greenwashing, comme on dit?
Vous parlez d'opportunisme. Moi, je crois que les opportunistes nous ont beaucoup précédés. Qui, Thomas Soto, a déclaré un beau matin en 2017, allez, à quelques mois d'une élection présidentielle, qu'il fallait fermer la centrale de Fessenheim? Qui, il y a quelques années, a décidé de mettre en place une écotaxe qui a coûté des milliards et qui ensuite a été abandonnée? Qui s'est déclaré, ou ne s'est pas déclaré d'ailleurs, pendant 5 ans sur Notre-Dame-des-Landes? Qui a mis en place, par exemple, un délit?
Que les autres n'aient pas fait le boulot ne veut pas dire que vous le faites aujourd'hui.
Nous, on le fait, et on le fait avec beaucoup de pragmatisme. Je suis fatigué, et je suis même parfois scandalisé par les conseils, voire les recommandations qui peuvent nous être données de gens qui n'ont en réalité rien fait ou font des choses qui sont parfaitement inatteignables. Vous savez, en préparant ce projet de loi, je me disais, au cœur de l'abstention, au cœur de la révolte citoyenne, au cœur de la défiance de nos concitoyens, je crois qu'il y a une chose dont on parle encore souvent sur les marchés, ce sont ces politiques dont je fais partie aujourd'hui, qui disent qu'ils vont faire et qui ne font pas. Faire la loi, c'est fixer des objectifs qui soient viables et surtout qui soient atteignables.
Alors atteignables, ça se discute
applicables.
Parce que le Haut Conseil pour le Climat, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil national de la transition écologique disent ensemble que ce projet de loi ne permettra pas d'atteindre l'objectif de réduction de 40% des gaz à effet de serre d'ici 2030. Les citoyens de la Convention citoyenne sur le climat n'en sont pas convaincus non plus. Ils ont mis 3,3 sur 10 à la copie.
Alors, soyons précis. Premièrement, quelle est la meilleure note que nous ayons obtenue, puisque moi j'ai regardé toutes les notes, des citoyens de la Convention citoyenne? 6,1 sur 10 sur une mesure qui est mot pour mot reprise dans le projet de loi que nous portons. C'est celui, et ça n'est pas anodin, du changement de la Constitution pour y intégrer la transition climatique.
6,1 sur 10. Il y aura un référendum.
Le président l'a annoncé. Il
avant
est plutôt
la fin du quinquennat.
Le président l'a annoncé, il est plutôt du genre à faire ce qu'il a dit. Donc je suis optimiste sur le référendum. Je veux juste vous dire, l'échelle, elle n'est pas sur 10, Thomas Soto. La meilleure note, quand on prend 100% d'une mesure de la Convention citoyenne, c'est 6,1 sur 10. Donc en fait, c'est un baromètre sur 6 sur 10, pas sur 10 sur 10. Deuxièmement, soyons clairs, j'entends les notes...
Quand vous rentriez à la maison, quand vous étiez petite, avec un 3,5 sur 10, vous disiez, non, en fait, j'ai 3,5, mais en fait, c'est un 8.
On a tous fait ça.
Ouais, mais
on a tous dit la meilleure de la classe, elle avait 6, il faut se comparer aussi. Ouais. Et après, je vais vous dire autre chose. Je suis aussi étonnée, quand on est à Bercy, on a une chance, c'est de parler avec les autres acteurs européens et parfois même le monde entier. Le monde entier, Thomas Soto, moi, me questionne, et j'ai des noms à vous fournir, sur ce que nous faisons avec la Convention citoyenne. Le monde entier regarde ce que Bercy a fait avec Bercy Vert, en permettant par exemple de regarder l'intégralité de notre budget en voyant ce qui est vert et ce qui ne l'est pas. Qui au monde, qui en Europe fait cela? J'entends qu'on se lamente, j'entends qu'on déplore, moi j'entends qu'on fait. Alors, ce projet de loi, il est concret.
Vous ne faites pas toujours tout ce que vous dites, il y a les paroles et il y a les faits, effectivement.
On fait beaucoup de
la
ce qu'on
France
dit.
Ne respecte pas, on le disait, sa trajectoire de réduction des gaz à effet de serre. Emmanuel Macron avait promis, par exemple, en 2017, l'interdiction du glyphosate d'ici 3 ans. Là, on est 4 ans plus tard et c'est toujours pas fait. Les néonicotinoïdes ont été partiellement réautorisés,
oui,
ça fait beaucoup quand
j'ai
même.
J'ai trop de respect pour vous pour répondre avec une même liste à l'après-vert. Les 50% de produits durables, dont 20% de bio dans toute la restauration collective, qui l'a fait. La mise en place de la loi de l'économie circulaire qui fait en sorte que les pièces détachées de votre vélo, de votre moto, de votre tondeuse, de votre perceuse soient disponibles, qui l'a fait. Il y a énormément d'exemples du quotidien. L'affichage environnemental, ça fait des années qu'on en parle. Qui va le faire? On va le porter dans ce projet de loi climat et résilience. Donc, on peut voir ce qui est difficile à faire. Vous dites glyphosate, je réponds aussi néonicotinoïdes. Oui, c'est compliqué de construire des alternatives. Oui, c'est compliqué. Mais ce qui est courageux, Thomas, Thomas Soto, c'est de faire et de créer un chemin. C'est pas de faire des grandes déclarations et d'être incapable de les mettre en œuvre. Vous savez, je crois vraiment très sincèrement que c'est au cœur de la défiance.
Question très précise, la suppression de l'avantage fiscal sur la taxation du gazole pour les transporteurs routiers, ça fait partie du texte, vous êtes pour ou vous êtes contre ?
Ça fait partie des sujets sur lesquels on va avancer avec un horizon 2030. Donc on va se fixer un objectif, on va se fixer le chemin pour y parvenir, parce que ça suffit les objectifs qu'on peut pas atteindre. Ouais. Et ensuite, ça sera voté, si ça doit être voté, dans un projet de loi de finances. Je ne m'échappe pas, c'est juste le réel, j'ai pas écrit la Constitution.
Donc alors attendez, parce
ça touche la fiscalité,
compris.
C'est voté en PLF. Ça.
Donc vous dites, vous êtes pour ou vous êtes contre ?
Je suis favorable à une mise en place avec un horizon 2030.
Donc d'ici 2030, suppression de l'avantage fiscal sur la taxation du gazole.
Horizon 2030.
Horizon 2030. On va parler du Front républicain, parce qu'on en parle beaucoup ces jours-ci, Olivia Grégoire, c'est-à-dire en fait de la capacité des électeurs de droite comme de gauche ou du centre à faire barrage au Rassemblement national. Alors aujourd'hui, il y a une partie importante de l'électorat qui préférait s'abstenir ou voter blanc en cas de match retour Macron-Le Pen en 2022. Est-ce que ça vous inquiète déjà ?
N'importe quel républicain, et encore plus quand on est engagé au gouvernement, est inquiet de voir que les extrêmes ont le vent en poupe. Moi, il y a plus
parce que dans Front républicain, il y a quand même un mot important, c'est républicain. Elle n'est pas républicaine, Marine Le Pen, aujourd'hui ?
Je crois pas que Marine... Je sais pas à moi de donner, je vais vous dire, des brevets en républicanisme. J'ai jamais été très fan des extrêmes, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Je suis même plutôt engagé en politique pour les combattre. Ce que je vois, c'est que les frontières sont poreuses. J'ai écouté Jean-Luc Mélenchon hier. J'ai été... pas étonné de voir qu'il confirmait scandaleusement l'erreur qu'il a faite en 2017. Moi, si on me posait la question aujourd'hui entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, mon choix serait clair et ça ne serait pas Marine Le Pen. Je pense qu'il faut être très clair. Il a décidé de ne pas l'être pour des considérations, on le sait, purement électorales. Je vois que celui qui appelle au barrage et qui dit que le barrage est cassé, c'est celui qui fait sauter, qui pète les digues. Il ne vous a pas échappé qu'il y a des têtes de liste, je ne citerai personne, mais qui sont directement passées du Rassemblement National aux Insoumis. Et je crois que les digues sont poreuses.
Il y a une tête de liste pour les régionales. Ouais.
Bah oui, et les digues sont très poreuses et qu'il y a une responsabilité. Le Front républicain, il est à front renversé, si c'est ce que vous voulez me faire dire. Et celui qui aujourd'hui combat le Rassemblement National dans ce que nous faisons au quotidien, c'est notre gouvernement, c'est Emmanuel Macron.
C'est intéressant que vous parliez des régionales, parce qu'avant, les présidentielles qui sont encore loin et dans le calendrier et sans doute dans la tête des Français, il y aura donc ces régionales en juin. Ce Front républicain, est-ce que les candidats En Marche devront se l'appliquer et se désister systématiquement pour éviter une victoire des listes Rassemblement National quand elles ne sont ni en première position ni en deuxième position ?
Oui, je le crois.
Faudra-t-il un désistement systématique ?
Je le crois.
Des listes En Marche ? Oui.
Je le crois.
Ouais.
Oui.
Tout le monde le croit dans votre parti ?
Je crois que Stanislas Guérini le croit aussi.
Ouais.
Et que ceux qui font dire l'inverse joue avec le feu. Stanislas Guérini est un homme clair. Notre ennemi est clair, c'est le Rassemblement National et Marine Le Pen.
Donc ça sera dit clairement avant les élections.
J'ai pas beaucoup d'inquiétude. Ouais.
Deux petites questions Covid pour finir. Comment vous expliquez qu'on puisse aller dans un Sephora et pas dans un musée ?
Oh, c'est une belle reprise de
Gabriel Attal dans le Parisien
Attal,
ce matin.
Bien sûr, ouais, et qui l'a dit avec sincérité, c'est ce qui nous rassemble avec Gabriel. Ça s'explique assez mal et c'est pourquoi dès qu'on pourra faire bouger les lignes, on le fera. Et dès qu'on pourra réouvrir...
Mais dès qu'on pourra, c'est pas ça. C'est,
est-ce qu'on pourra...
La vraie question, puisqu'on ne comprend pas aujourd'hui pourquoi on peut aller acheter du parfum dans un Sephora et pas aller dans un musée où il y a souvent moins de monde que chez Sephora et on n'a rien contre Sephora.
Mais la question est pas
est-ce
nouvelle.
Est-ce qu'il faut rouvrir maintenant ? Mais non, mais la question nouvelle, c'est est-ce que c'est maintenant, là ? Est-ce qu'il faut rouvrir ?
La question nouvelle, c'est que au moment où on se parle, j'ai 85% de taux d'occupation en réa en Île-de-France. Et j'ai, on le sait depuis aujourd'hui, 40% d'opérations déprogrammées. Vous me pardonnerez de penser et aux réanimations et à ceux qui ne se font pas opérer aujourd'hui. Et je crois que c'est super dur pour la culture, mais je crois qu'il faut
donc c'est pas
tenir
le moment
encore un peu. Je suis pas ministre de la Culture, mais je sais que Roselyne Bachelot, je peux vous dire, jour et nuit, elle y bosse. Et dès qu'on pourra rouvrir, je sais pas si elle l'a dit, mais je sais qu'on le fera. Ce sont les lieux culturels qu'on réouvrira en priorité, bien sûr. Et je veux aussi dire, en tant que membre du gouvernement à Bercy, que les aides continueront. Ça a aussi été dit par le Premier ministre. On va pas les couper le premier jour où on réouvrira. On sera, quoi qu'il en coûte, aux côtés de ce secteur culturel qui souffre terriblement, oui.
Dernière question, vous êtes une élue parisienne, Olivia Grégoire. Anne Hidalgo souhaite un peu plus de souplesse dans le couvre-feu dans la capitale. Elle dit que 18h à Paris, c'est trop tôt. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ?
Elle ne dit pas exactement ça. Elle dit que 18h, c'est la moitié de l'après-midi pour les Parisiens. Je trouve ça terriblement méprisant. Est-ce que ça veut dire qu'on arrête de travailler à 17h à Bourges, à 16h à Valence ?
Oui, elle dit qu'on commence la journée plus tôt en région et un peu plus tard
déjà,
en Paris.
Je suis content de voir qu'Anne Hidalgo s'occupe un peu de Paris, parce que je croyais qu'elle était partie sur une autre rampe de lancement. D'ailleurs, je le pense même encore aujourd'hui, donc je suis content de voir que Paris l'intéresse. Il y a un peu de flottement dans les éléments de langage avec Emmanuel Grégoire, son premier adjoint. Elle était en vacances, donc la semaine dernière, les déclarations ont flotté. Il y a eu des contre-vérités, puis des réaffirmations. Bon, ce que je vois, c'est qu'on est concentré sur cette crise. Elle est concentrée plus sur une campagne électorale qu'une campagne sanitaire.
Mais moi, ma question, c'est pas un commentaire politique sur Anne Hidalgo. C'est, je voudrais savoir si vous pensez, vous, en tant qu'élu de Paris, qu'il faut assouplir le couvre-feu à Paris.
Je ne crois pas.
Non.
Surtout pas quand on voit ce qu'on voit les week-ends. Je ne crois pas. C'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. On vit souvent dans des appartements petits et exigus à Paris. Je comprends. Je pense qu'il faut tenir. C'est encore difficile à dire, mais tenons encore ensemble quelques semaines. Le Premier ministre l'a dit. On va s'en sortir d'ici la mi-avril. J'ai bon espoir. Mais il faut tenir. Et je crois que 18h est l'heure nationale. Et c'est une heure qui convient à Paris, même si c'est dur.
Merci à vous, Lydia Gagor, d'être venue ce soir dans RTL Soir. À suivre l'œil de Natacha Polony et son regard sur le féminisme. Elle n'est pas vraiment une féministe comme les autres, Natacha.
RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Amandine Bégaud pour le rappel.
Et l'Italie annonce ce soir avoir franchi la barre des 100 000 morts liées au Covid. En France, l'inquiétude grandit en Île-de-France. L'ARS, l'Agence régionale de santé, demande aux hôpitaux et cliniques d'annuler 40% des opérations non urgentes pour faire face à l'afflux de patients. Dans l'actualité également, ces mesures de protection renforcées pour les deux enseignants de Sciences Po Grenoble accusés d'islamophobie. C'est ce qu'annonce ce soir Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur dit avoir été choqué par ces accusations. Et puis au Royaume-Uni, la couronne tangue après les confessions de Meghan Markle. Dans une interview choc, l'épouse du prince Harry dénonce le racisme de certains au sein de la famille royale. Des conversations notamment autour de la couleur de peau de son fils avant sa naissance.
La météo, Louis Baudin. Oui. Demain, il n'y aura pas de pluie.
Non, il n'y aura pas de pluie.
C'est déjà ça.
Effectivement, du temps sec.
Mais je vous ai écouté à 18h.
Oui, je vois ça. Donc, il y aura du temps sec quasiment partout. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y aura peut-être quelques averses sur les Pyrénées, sur les Alpes, mais c'est tout ailleurs. Donc, on va rééquilibrer un peu les choses. C'est-à-dire qu'il y aura un peu plus de nuages dans le nord, un peu plus de soleil dans le sud. Le résultat, c'est quand même qu'il y aura une belle lumière dans la plupart des régions. Un peu plus de nuages peut-être près des frontières du nord-est. Puis côté température, encore de fortes gelées demain dans la moitié nord jusqu'à moins 3, moins 2 degrés donc dans ces régions. Dans le sud, ça sera déjà positif. Et l'après-midi, ça remonte un petit peu dans le nord. 9 à 11 degrés dans cette moitié nord, tout comme dans les régions du sud-ouest. Et 15 à 16 degrés même près de la Méditerranée.
Merci Louis. L'œil de Natacha Polony. Bonsoir Natacha.
Bonsoir.
C'est donc aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes et comme tous les ans, c'est le jour de l'année où l'on parle féminisme. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous connais un peu, j'imagine que ça vous agace quelque peu.
Eh bien exactement. Déjà parce qu'on se sent obligé de parler des femmes le 8 mars, oui, ça m'agace. Mais en fait, il y a un truc qui m'agace encore plus. C'est quand on me sort des trucs du genre « Oh bah vous, le féminisme, c'est pas votre truc. Hein. » Alors cette phrase-là, elle résume l'OPA qui a été faite par certaines activistes sur un combat qui nous est commun, non seulement à toutes, mais à tous, puisqu'il inclut aussi les hommes. Depuis quelques années, celles qui critiquent la focalisation d'un certain féminisme militant sur les combats uniquement symboliques, hein, la langue, les publicités supposées sexistes, plutôt que sur les luttes politiques, celle-là, et puis celle qui s'inquiète d'un féminisme simpliste qui fait de toutes les femmes des victimes et de tous les hommes des bourreaux, elles sont accusées de ne pas être féministes. Mmh. Bref, on laisse à des activistes radicales le droit de décider qui est féministe et qui ne l'est pas. Je refuse.
Ça veut dire quoi ? Polony est féministe ? Vous êtes féministe, Natacha ?
Je vais vous dire, j'ai été élevée par une mère qui a fait ses études de médecine avec 3 enfants sans aucune aide, à une époque où les femmes étaient largement minoritaires dans les facs de médecine. J'ai moi-même 3 enfants, ça m'empêche pas d'être une des rares femmes à diriger un journal. Je débat politique, idées, culture, sans jamais me demander si celui que j'ai en face de moi est un homme ou une femme. Et en me foutant, surtout, du fait que je suis une femme. Et puis j'ai écrit un livre, il y a déjà 13 ans, « L'homme et l'avenir de la femme, l'homme avec un grand H », pour proclamer que le féminisme doit être un humanisme, c'est-à-dire un combat de tous pour l'émancipation. Alors oui, c'est vrai, quand j'embauche quelqu'un, je regarde en priorité ses compétences plutôt que de me dire que je dois absolument choisir une femme.
Vous n'êtes pas très 2021.
Même si, en fait, je vais vous le dire, c'est vrai, j'ai un plus grand plaisir à embaucher une femme parce que j'adore découvrir des personnalités de femmes battantes, des filles lumineuses, des filles vives. Donc je pense que c'est tout ça, le vrai féminisme.
Oui, mais le féminisme, c'est aussi aujourd'hui de lutter contre les violences faites aux femmes, Natacha, vous le savez.
Oui, en effet. Sauf que moi, j'en ai assez aussi de ces activistes qui voient du patriarcat partout, sauf quand une religion demande aux femmes de cacher leur corps. J'en ai assez de celles qui croient qu'un homme qui les complimente dans la rue, c'est une agression au même titre qu'un viol. J'en ai assez de celles qui habituent les femmes à se penser comme des victimes et qui expliquent tranquillement qu'être lesbienne leur permet d'éviter d'être battue comme si tous les hommes étaient violents. Donc je crois que l'urgence, eh ben, c'est de réfléchir à l'éducation des filles, et celle des garçons évidemment, mais l'éducation des filles, c'est un sujet qui a été totalement abandonné parce qu'on a cru que la mixité à l'école, ça suffisait à régler les problèmes. Alors que vous savez, par exemple, au XVIIIe siècle, on écrivait des traités d'éducation des filles. Eh ben le mien, si j'en écrivais un, il commencerait par une réflexion sur les modèles qu'on donne aux filles, sur l'éloge de l'ambition intellectuelle, sur la liberté qui nécessite de ne jamais dépendre d'autrui, et puis aussi sur le plaisir et le désir, dans une société où on apprend aux filles à contrôler leur corps et à craindre le désir de l'autre au lieu d'exprimer le leur. Et ben vous savez quoi, je pense que je ne suis pas toute seule dans cette position.
C'est fort probable. Merci à vous Natacha Polony. Demain, c'est Philippe Cavrivière qu'on interrogera sur son féminisme.
Mais j'espère bien.
Ouais, je pense que c'est un mec bien. Merci
à lundi.
À vous, Natacha, et lundi prochain. Lui n'avait vraiment rien d'un grand féministe, mais quel personnage, hein. Clémenceau arrive dans ce studio, ou presque, à travers la voix et les mots de Nathalie Saint-Cricq, qui publie un livre aussi étonnant que passionnant. Ça s'appelle « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir ». Nathalie Saint-Cricq et le tigre en direct dans un instant.
RTL Soir. Thomas Soto, RTL Soir.
Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. C'est le pacte quasi amoureux passé entre Clémenceau sur la fin de sa vie et Marguerite Baldensperger, de 42 ans, sa cadette. Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. C'est aussi le titre du premier roman publié par Nathalie Saint-Cricq aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir et bienvenue à vous, Nathalie Saint-Cricq.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Alors Clémenceau, on le connaît, hein, surnommé le Père La Victoire à la fin de la Première Guerre mondiale, ancien président du Conseil, ancien ministre de l'Intérieur, surnommé le Tigre. C'est d'ailleurs lui le premier qui utilisa cette formule tellement reprise aujourd'hui encore de premier flic de France. Elle, Marguerite, c'est une éditrice qui travaille chez Plon, mariée, mère de famille, qui ne se remet pas du suicide d'une de ses filles. Elle va à sa rencontre pour lui proposer d'écrire un livre, justement. Comment se crée entre eux ce lien tellement particulier qui est le cœur de votre livre, Nathalie ?
Alors, je pense que Clémenceau s'ennuyait un peu, était un peu triste d'être retraité, parce qu'on l'avait un peu dégagé après la guerre de 14, après qu'il ait gagné la guerre. Et il a une jeune femme assez jolie, qui est tout à fait dans ses critères, mince, élancée. Elle n'a que 42 ans, il en a 82 quand même. Et puis, elle est un peu en devant lui, elle lui demande d'écrire un livre. Alors tout de suite, au début, il fait le bougon du genre « Oh, j'ai pas que ça à faire !» Parce que, effectivement, c'était toujours son caractère
de bougon.
Il ronchonne tout le temps. Mais c'est ça qui fait son charme. Et puis, il la voit, il trouve qu'elle est triste, il voit pas très bien ce qui se passe. Et il se revoit une autre fois et il lui dit « Mais madame, que cache cette tristesse ?» Et elle lui raconte son histoire. Je vais pas tout raconter, vous en avez dit un peu une partie. Et à ce moment-là, elle lui dit « Prenez ma main, donnez-moi la vôtre, je vous aiderai à vivre pour l'aider à surmonter son chagrin. Et vous, vous m'aiderez à mourir. » Et finalement, il a l'impression d'être désiré, aimé, encore une fois. Il a 82 ans, c'est pas forcément tous les jours que ça arrive. Et à partir de là, 670 lettres vont être envoyées.
Pendant des années, hein, ils vont s'écrire,
beaucoup de
s'épauler, s'agacer, se retrouver tous les deux dans sa maison de Vendée ou rue Franklin. Et vous servez largement de cette correspondance, hein, ces 670 lettres. Quelle est la part de récit historique et la part de romanesque dans ce livre ?
Alors, toutes les lettres sont exactes. Les extraits que je prends sont tout à fait les vraies lettres. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'elle lui a répondu, parce que comme c'était une dame d'un certain milieu, d'un certain âge et d'une certaine époque, eh bien, elle lui a demandé de brûler les lettres, les correspondances.
Une dame mariée, accessoirement.
Et une dame mariée, même si, finalement, comme tout le monde était en extase devant Clémenceau à cette époque, eh bien, le mari aussi était en extase devant Clémenceau. Et il tolérait très bien que son épouse aille en Vendée passer quelques jours, même avec les enfants de temps en temps. Mmh. Et même les parents de Marguerite voyaient Clémenceau. Donc, c'est une espèce d'étrange famille. Et ils se voyaient souvent. Alors, la seule chose que j'ai, non pas inventée, mais reconstituée, c'est le journal intime. Alors, évidemment, elle n'en a pas laissé. Mais pour écrire un livre, je ne pouvais pas faire tout à la troisième personne. Donc tout ce qui est dedans est historiquement vrai. Après, la façon dont elle lui répond, dont il se parle, il y a probablement des choses qui sont de ma vision personnelle et puis probablement un peu plus moderne qu'elle ne l'était, mais je ne pouvais pas écrire comme on écrivait au début du siècle, donc j'ai essayé de me mettre dans sa peau.
Nathalie, elle est restée platonique cette relation, on sent qu'il brûle de le consommer cet amour, et dans le livre finalement on n'a pas la réponse.
Alors, j'ai choisi de rester dans l'ambiguïté pour la bonne première raison, c'est que je n'étais pas dans la chambre ni dans l'alcôve et encore moins à Saint-Vincent. Deuxièmement, on peut penser qu'une femme qui a été frappée par un tel drame et qui est une fois de plus de sa génération a probablement quelques réticences et que c'est pas une femme extrêmement mondaine, extrêmement active comme certaines maîtresses de Clémenceau, et Dieu sait si on lui en a prêté. Mmh. Après, lui-même était un homme d'un âge certain, donc je pense qu'on a été entre eux une relation assez intense, mais qui n'a peut-être pas été entièrement consommée. Mais je vous précise que les hommes ont une vision de cette histoire, et en général elle va assez loin, et que les femmes en ont une autre, c'est-à-dire que voilà, à chacun de juger.
Chaque lecteur et chaque lectrice appréciera. Ça dit, être amoureuse de Clémenceau, comme elle semble l'être, hein, quand même, c'est pas simple, parce que le type est odieux, vous le décrivez comme infernal, intolérant, pire qu'un enfant jaloux, parfois à la limite du supportable, mais il s'en moque, il est un séducteur misogyne, qui ne veut pas entendre parler du droit de vote pour les femmes. Après la naissance de sa deuxième fille Thérèse, il écrit à une de ses amies, C'est lui qui écrit ça. Hein. Elle est tellement horrible qu'elle fera époque dans les annales de la laideur. Objet d'horreur, cela s'appelle Thérèse.
D'accord. Alors, on est à la journée de la femme, certes. Il n'a pas été très clairvoyant.
Il n'est pas très 8 mars.
Pas exactement. Simplement, vous pouvez rajouter qu'il a quand même été abolitionniste pour la peine de mort, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Anticolonialiste, Dreyfusard, pour le vote des Noirs, dénonçant le génocide des Arméniens, donc pensant un peu contre son époque. À côté de ça, dans tout, et il y a beaucoup de politique dans le livre, il est drôle. Vous voyez ce que je veux dire ?
Il est très drôle, il est très fin.
Voilà, il est vivant. Il a 82 ans, il se lève le matin, il a envie de faire des choses sans interruption. C'est un remède au Covid, vous voyez ? Moi, j'ai passé un an là-dessus, et avoir ce type, qui, enfin ce monsieur, pardon, qui a des phrases épouvantables pour tout son entourage, et on lui a fait payer, pour Poincaré, pour Foch, pour tous les gens. C'est lui qui dit, mon chien, on dirait un vrai ministre, il aboie
en reculant. C'est génial, parlant de son chien qui fait du raffut, il dit, un vrai ministre, il aboie en reculant. Voilà. Il parle de son père, il ne fichait rien, et comme tous les hommes qui ne fichent rien, il était fort occupé. Enfin, il a un sens de la formule ultra ciselée. Il y a aussi cette anecdote quand il arrive au ministère de l'Intérieur en 1906, il trouve les bureaux tout vides. Il fait alors apposer dans toutes les pièces un petit panneau, un petit écriteau. Messieurs les fonctionnaires sont priés de ne pas partir avant d'être arrivés.
Il en a fait une autre sur les fonctionnaires qui est terrible. Il demande à un moment donné, est-ce que vous savez pourquoi les fonctionnaires sont les meilleurs maris ? Il répond, c'est simple, ils rentrent tôt le soir, ils ont déjà lu le journal. C'était assez injuste. Il y en a pour les fonctionnaires, il y en a pour Poincaré aussi, il y en a pour tout le monde. Ouais. Il résistait pas.
Mais est-ce qu'il était populaire ? Parce qu'il avait des relations compliquées, vous le disiez, avec Jaurès, avec Ferry, avec Deschanel, avec Poincaré. Mais est-ce qu'il était aimé par le peuple ?
Par le peuple, oui, par la classe politique, sur mon nom. D'abord parce qu'il se les est payés à longueur de journée, à longueur d'assemblée, mais il le faisait en public. C'est-à-dire qu'on l'appelait l'Attila des gouvernements, il a fait tomber des tonnes de gouvernements. Quand quelqu'un disait une ânerie à la tribune, comme quand Deschanel avait dit « il faut solutionner cette question », il s'est élevé en disant « nous allons nous en occupationner ». Donc il y a tout ça, il a accumulé des ennemis, mais pendant la guerre, alors... On a considéré que c'est lui qui avait sauvé la France et qui surtout il était auprès des soldats. C'est-à-dire que c'est le premier qui va dans les tranchées, qui s'intéresse aux conditions sanitaires, qui s'intéresse aux poilus. Il exige que les gueules cassées soient au traité de Versailles en disant c'est parce qu'on leur doit. C'est-à-dire qu'il a un respect pour lui et un amour pour lui chez les Français qui n'est effectivement pas reflété dans la classe politique.
Nathalie, vous ne m'avez pas dit s'il avait consommé son amour avec Marguerite, mais
je ne sais pas.
Marguerite, elle a un rival, c'est Monet, le peintre. Clémenceau l'adore, il a une passion qui est troublante pour lui quand on lit ce que vous écrivez. Clémenceau, que vous décrivez par ailleurs comme homophobe, était-il amoureux de Monet ?
Il n'était pas amoureux de Monet, il se retrouvait. Enfin, il avait trouvé pire que lui en Monet. Je pense que Monet était un caractère absolument infernal qui donnait des leçons à Clémenceau. C'était son maître, malgré tout. Et surtout, Clémenceau était en extase devant Monet. Il était en extase devant la peinture. Et il considérait que c'était la plus belle chose. Il allait régulièrement voir les nymphéas. Il s'asseyait, il pleurait. Et quand il est allé aux obsèques de Monet, il était tellement abattu. D'abord, il a arraché le drap noir qu'il y avait sur le cercueil en disant « Pas de noir pour Monet. »
C'est pas sa palette de couleurs.
Ça n'est pas une couleur, le noir. Il connaissait pas Soulages. Il a arraché les drapeaux. Il a arraché un rideau avec plein de fleurs. Il l'a mis. Et il était... Alors ça, on a des photos. Il était courbé, il pleurait. Et on n'imagine pas Clémenceau en train de pleurer. Et puis, il ne pouvait plus parler. Il avait la tête baissée. Et ça a été son grand amour, mais au sens... je pense qu'il respectait plus l'amitié que l'amour et que c'était pour lui une valeur cardinale.
Je voudrais avoir votre avis sur deux petites formules dont j'aimerais savoir en fait si c'est du Clémenceau ou si c'est du Saint-Cricq. Je me sens vraiment trop usé et vieilli et trop fatigué pour ne pas prendre toutes les précautions nécessaires en vue de prolonger quelque peu mon existence. Usé, vieilli, fatigué, ça rappelle Jospin sur Chirac.
Ça c'est de lui pourtant.
C'est de
moins que Lionel Jospin soit inspiré de Clémenceau.
Ah, c'est pas vous qui avez remis ça.
Non. J'ai fait quelques allusions politiques, mais celle-là n'en est pas une.
Et alors quand vous écrivez en amour comme dans la vie, il a toujours choisi la liberté. La sienne surtout, quoi qu'il en coûte.
Bah, il vous demande que ça, c'est pas lui, c'est moi.
Ça, c'est un lien entre Clémenceau et Macron.
Absolument.
Hein, c'est
absolument.
Ça. Beaucoup de politiques se sont revendiqués, notamment tous ceux qui ont été ministres de l'Intérieur. Il y a eu Valls, il y a eu Cazeneuve, il y a eu Chevènement. Se sont revendiqués de Clémenceau. Oui. On le connaît presque plus en ministre de l'Intérieur aujourd'hui qu'en président du Conseil.
Oui, absolument. Il a eu une grande lignée. Quelquefois, beaucoup plus de gens dits de droite que de gens de gauche. Ouais. De Gaulle
Parce que lui était très à gauche.
Oui. De Gaulle a eu une vraie passion pour Clémenceau. Il est allé sur sa tombe. Il a cité Clémenceau le 11 novembre 1941, quand il est à Londres, en disant qu'en gros, tant que Clémenceau ne pourra pas mourir en paix, ou vivre, ou être étendu en paix dans sa tombe, tant que la France ne sera pas libérée. Il est retourné plusieurs fois en Vendée, et il y a eu effectivement, chez beaucoup d'hommes politiques, et y compris Emmanuel Macron, quand le faire bloc, c'est la guerre au moment du Covid.
Ouais, faire bloc, c'est une formule.
Les premières lignes, les deuxièmes lignes, tout ça, il a une rhétorique clémenciste qui a diffusé dans la chez les politiques.
On va terminer sur un de ces mots. Hein. Pour mes obsèques, je ne veux que le strict minimum, c'est-à-dire moi. Et il aurait ajouté, épargnez-moi un discours de Poincaré sur ma tombe, ce serait mourir une deuxième fois.
Il a demandé personne. Pas une personne, pas un officiel. Il y a une cérémonie qui a eu lieu quelques jours après. Il a interdit à quiconque d'y aller. Il ne voulait pas de légion d'honneur, il ne voulait pas de décoration. Et sa tombe, il n'y a rien, même pas son nom, à peine quelques fleurs.
Merci Nathalie Saint-Cricq, c'est un livre qui nous apprend plein de choses et qui est vraiment agréable à lire. Ça s'appelle donc « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir ». Ça sort après-demain aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce soir.
Merci à vous.
Dans un instant, et dans cette journée de la femme, Julia Molko a décidé de nous parler des hommes. Ils sont donc à la une de la culture de l'actu.
RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et c'est Julia Molko pour la culture de l'actu. Bonsoir Julia.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Et ce soir, vous nous parlez des hommes qui ont joué les femmes. C'est un peu un contre-emploi. Être une femme n'a pas toujours été simple, y compris dans la culture. Et c'est ce que l'on va donc voir avec vous.
Bien des choses ont évolué depuis que Rome voulait les culpabiliser pour une pomme.
Eh ben oui, on commence avec Charles Aznavour. Et avec Rome et plutôt avec la Grèce. Dans le théâtre antique, les comédiens étaient exclusivement des hommes qui, pour interpréter des femmes, portaient donc des masques et même des rembourrages. Au 3e siècle après Jésus-Christ, le christianisme considère les femmes qui se donnent en spectacle comme plus impudiques que les prostituées. Les femmes n'apparaissent sur scène en Italie et en France qu'à partir du 16e siècle, avec la Commedia dell'arte, mais leur présence continue à choquer. Et malgré l'affirmation de la dignité des comédiens, qui est un édit de Louis XIII, eh bien Bossuet n'hésite pas à écrire « Quelle mère, tant soit peu honnête, n'aimerait pas mieux voir sa fille dans le tombeau ?» que sur le théâtre.
Ah, quand même.
Il faudra attendre encore 2 siècles pour que la carrière d'actrice devienne une carrière presque comme une autre. Jusqu'au 19e siècle, les femmes n'avaient pas le droit de chanter dans les églises. On faisait donc appel, là encore, à des hommes, enfants ou adultes, pour interpréter les partitions les plus aiguës. Certains utilisaient leur voix de tête, dite de fausset, quand d'autres avaient eu recours à une solution plus radicale, la castration de leurs glandes génitales, opération barbare et forcée, qui avait lieu entre leurs 7 et leurs 12 ans. Et l'engouement pour les castrats, notamment au 17e ou au 18e siècle, n'est pas uniquement religieux. Monteverdi, Handel ou encore Rossini, pour leur donner leur plus beau rôle à l'opéra.
Et alors au cinéma aussi, des hommes ont incarné des personnages de femmes, mais alors là pour de toute autre raison.
Oui, quand un homme se déguise en femme dans un film, en général, c'est pour se sortir d'un mauvais pas.
Allô, monsieur Poliakov ? J'ai entendu dire que vous cherchiez 2 musiciennes.
Certains l'aiment chaud, « Some Like It Hot » de Billy Wilder, sorti en 1959 et qui raconte l'histoire donc de 2 musiciens qui, pour sauver leur peau, sont quand même recherchés par la mafia, vont se déguiser en femmes et intégrer un orchestre de jazz féminin. Immense film. Et en 82, quand Dustin Hoffman, alias Michael, se déguise en femme et devient Dorothy, bah c'est enfin pour décrocher un rôle. C'est la bande originale de Tootsie, bien sûr, réalisée par Sidney Pollack et sortie en 82. Enfin, parfois, toujours au cinéma, se déguiser en femme, en une femme d'un certain âge même, bah, ça peut vous permettre de voir un peu plus vos enfants.
Ah bravo Figaro, bravo bravissimo, ah bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, non manquera, la 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 la.
Madame Doubtfire, bien sûr, c'est la scène d'ouverture quand Robin Williams double ce petit personnage et chante donc Figaro. Grand Robin Williams qui d'ailleurs au départ n'était pas le favori pour ce rôle. Mel Gibson, Bill Murray ou encore Tom Hanks avaient passé les essais. Seulement le talent d'improvisation de Robin Williams était tel qu'il remporta la partie. Allez, moins d'improvisation pour finir, mais plus de 15 kilos de costumes nécessaires pour faire de John Travolta Edna, une gentille mère de famille parfaitement coiffée et totalement 60s, Hairspray. Film sorti en 2007, tiré de la comédie musicale de Broadway, dans lequel John Travolta donc est Edna, cette jolie maman.
C'était passé sous mes radars, j'ai pas voulu être sur Mars.
Pour toi c'est bien.
Ouais, c'est vrai. On va faire la météo avec Peggy du coup. Merci Julia.